Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Édouard Dupenoit.
Voilà donc la deuxième partie d'appel sur l'actualité pour parler de cette décision annoncée en milieu de semaine dernière par les autorités maliennes de transition. Suspension de toutes les activités politiques dans le pays. Abdoulaye Maïga, on l'évoquait juste avant le journal, donnait deux grandes raisons pour justifier cette suspension. D'une part, il y a plusieurs défis sécuritaires à relever au Mali, c'est ce qu'il disait. Et pourtant, les partis politiques mènent des débats stériles, qui semblent, et là on le paraphrase, en dessous de ces défis sécuritaires. Donc, suspension de leurs activités. Et puis, il faut instaurer aussi un climat de sérénité alors que s'ouvre le dialogue inter-malien. Beaucoup de réactions très courroucées de la part d'anciens responsables politiques, meneurs de formation sur notre antenne. Chérif Koné, le coordinateur général de l'appel du 20 février, qui disait que la dictature était en train de prospérer dans le pays et qu'il était hors de question de la laisser faire. Mamadou Ismaïla Konaté, l'ancien ministre de la Justice, la transition se radicalise, il faut barrer la route à l'autoritarisme. Je cite encore l'ancien Premier ministre Moussa Mara, il faudrait au minimum ouvrir des cadres de concertation avec les partis politiques. On ne peut pas empêcher les forces sociales de cette nation de travailler, un décret ne pourra jamais l'empêcher, il est temps que les militaires le comprennent. Et vous êtes nombreux et nombreuses à réagir, auditeurs de RFI, à cette suspension des partis politiques au Mali. On accueille d'abord Aliou qui nous appelle de Bamako. Bonjour Aliou et soyez le bienvenu sur RFI.
Bonjour.
Alors vous nous dites, si on suspend les activités des partis, on exclut de fait une partie des Maliens de ce dialogue qui s'est ouvert.
Absolument, parce que je me dis aujourd'hui que, étant donné que le dialogue même a pour option de réunir le maximum des Maliens, je ne crois pas que ce décret est le bienvenu. Parce que dans la mesure où on arrive à une situation où on veut faire une rencontre avec tout le monde, pourquoi exclure une frange de la société? Je ne vois pas. Les partis politiques, quels qu'en soient les données, ont leur mot à dire dans tout ce qui se passe au Mali. Aujourd'hui, on tend vers, comme on l'a dit, c'est déjà les raisons évoquées ne tiennent pas. Parce que si aujourd'hui on dit que c'est pour la stabilité, je pense qu'il ne peut pas perturber le quotidien du Malien.
Alors, je vais opposer à ce que vous dites un témoignage que Oumar Sangaré nous a écrit sur Facebook, qui nous dit « Il est temps de temporiser, les libertés sont loin d'être confisquées, c'est seulement un toilettage du Mali ». Il nous dit « Avec 293 partis, comment voulez-vous qu'il y ait de l'ordre si ces partis ne font pas correctement leur mission ?» Est-ce que, Aliou, vous souscrivez à cette analyse qui dit « Non, c'est pas une privation des libertés, c'est juste un peu d'ordre ».
Bon, moi, je me dis, si c'était une privation de l'ordre, on devait spécifier, on ne devait pas suspendre les activités politiques. On doit quand même dire qu'il faudrait que les partis soient à rang organisé. Il y a une manière de faire aujourd'hui, et prendre un décret, c'est trop.
Mais c'est-à-dire
que ce décret, pour moi, je me dis, on peut inviter les partis politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train d'inviter les gens à la reconstruction de l'État. Tu dois exclure une certaine frange, ça veut dire que tu es en train d'exclure une bonne partie, quelle qu'en soit la multiplicité des partis. Ça, c'est mon avis.
Vous dites c'est trop, vous auriez souhaité tout de même une autre mesure, qu'est-ce que vous auriez souhaité dans ce cas-là comme mesure à Lyon?
Je voulais quand même que quelqu'un soit donné, on ne devait pas prendre cette mesure-là, ce n'est pas le moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette mesure n'a pas son sens. On doit inviter tout le monde, ceux qui viennent ou pas, mais si c'est réellement dans le sens de la reconstruction de l'État, on va les écouter. De toute façon, c'est un débat collégial. Ceux qui sont là-bas, c'est des anciens dignitaires. Donc, ils ne connaissent pas le Mali mieux que ceux peut-être qu'on va exclure. Chacun a son idée.
Vous estimez que les partis politiques, même s'ils sont extrêmement nombreux, ils auraient eu une pierre importante à apporter à l'édifice du dialogue intermalien qui a commencé?
Oui, c'est évident.
D'accord.
Quelqu'un doit les donner. On doit tous les consulter. Tu ne peux pas gérer sans consulter ceux qui ont passé après toi. Ça n'a pas de sens. En bien comme en mal.
Aliou, merci beaucoup de nous avoir appelé de Bamako. On reste dans la capitale malienne où c'est Aboubacar, cette fois, qui souhaite nous faire part de votre témoignage. Bonjour Aboubacar.
Oui, bonjour Rafi.
Vous estimez que cette mesure est disproportionnée parce que vous le rappeliez en préambule de votre propos. De toute façon, les militaires qui sont en ce moment à la tête de la transition, ils ont le soutien du peuple malien. Cette mesure, elle était selon vous inutile?
Oui, je pense effectivement. Mais tout d'abord, je tiens à soutenir le gouvernement de la transition face aux nombreux défis auxquels il fait face, quoi.
D'accord.
Par rapport à la suspension des partis politiques et associations, je pense que cette mesure n'était pas nécessaire.
C'est-à-dire qu'elle n'était pas nécessaire, que c'est aller trop loin que de suspendre les activités des partis politiques?
Effectivement, d'autant plus que, comme je l'ai dit, la transition jouit d'une forte popularité jusqu'à preuve du contraire. Donc, ils garantissent au moins la liberté d'expression, quoi. Alors, je pense que...
Je vous écoute.
Oui, je pense que les Maliens ont vraiment rompu un peu le lien avec les partis politiques. Ils parlent pour eux-mêmes, quoi. Ils ne parlent pas pour, au nom de la population. Alors, parce qu'on sait tous, dans les autres gouvernements qui ont passé, ces mêmes personnes ont toujours participé à ces gouvernements. Donc si aujourd'hui le Mali est jusqu'à présent est là, c'est que vraiment ils sont aussi responsables, quoi. Donc la population le sait. Donc vraiment, je pense que cette mesure-là n'était pas vraiment nécessaire, quoi, de ce point-là.
Aboudou Diamouten nous écrivait aussi sur Facebook. Si vous saviez combien, à quel point l'homme politique est détesté, alors ce sont ses termes, mais détesté, déprécié au Mali, plus personne ne peut les soutenir. Vous êtes un peu sur la même ligne, Aboubacar. Vous estimez que c'était des partis qui, de toute façon, avaient perdu toute crédibilité aux yeux de la population malienne ?
Exactement. Ils ne peuvent pas faire sortir personne aujourd'hui. Je sais, ils ne peuvent pas faire sortir personne d'aujourd'hui. Donc, les laisser s'exprimer, moi, je pense que. C'est pas grave, quoi. À partir du moment où la sécurité du pays est garantie et que vraiment la paix sociale est garantie, qu'on laisse s'exprimer, moi je pense que ça ne doit pas inquiéter la transition, quoi.
Aboubacar, merci beaucoup de nous avoir fait part de votre témoignage. On reste d'ailleurs toujours à Bamako, où cette fois c'est Adama qui nous a appelé au 33 9 693 693 70. Adama, bonjour et bienvenue sur l'antenne de RFI.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio internationale.
Vous étiez un peu plus critique dans ce que vous nous expliquiez hors antenne. Vous disiez non, c'est une décision autoritaire, on devrait laisser les partis politiques s'exprimer.
Exactement. Pour moi, cette décision n'a pas lieu d'être. Dans une démocratie, on devrait laisser tout le monde dire ce qu'il a à dire. C'est une décision carrément radicale. Parce que si vous dites que les gens n'ont plus de voix, les partis politiques n'ont plus de voix, ne sont plus populaires, les gens ne leur font plus confiance, pourquoi les empêcher de parler? Il fallait les laisser parler, il fallait les laisser au moins cette voix pour exprimer. S'ils sont soutenus par la population, ils pourront faire quelque chose. Mais à l'heure actuelle, tout le monde sait que les politiciens ne sont plus populaires dans ce pays. Donc pour moi, la décision, elle est totalement radicale et autoritaire. Il devrait laisser les gens s'exprimer et c'est au peuple, à la population de prendre ce qui est bien ou ce qui est mal.
Quand vous dites, Adama, il aurait fallu laisser les partis politiques s'exprimer, c'est-à-dire que je vous comprenne bien, dans le cadre du dialogue qui s'est ouvert ou dans le cadre des activités normales et classiques des formations politiques ?
Dans le cadre des activités normales et classiques. Parce que si on est toujours dans une démocratie, cela devrait être normal. Cela ne devrait pas poser de problème, comme dans toute démocratie. Mais les dialogues intermaliens, ça c'est autre chose. Et les dialogues intermaliens, à l'heure où... Je pourrais dire que les dialogues intermaliens tombent mal, parce que après une telle décision, il ne sert plus à rien de dire qu'on va convoquer tout le monde, qu'on va réconcilier les gens. Pour moi, la décision, elle tombe très très mal, cette décision de...
Décision malheureuse, on vous comprend, Adama, décision malheureuse et un peu trop radicale à vos yeux. Vinabé, qui est à Bamako, toujours, et qui est en ligne avec nous, que je remercie de nous avoir appelé, nous dit « cette décision ne fera que diviser les Maliens ». Vinabé, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, je vous attends. Je salue tous les auditeurs de RFI. Les autorités maliennes ont pris une décision unilatérale et qui divise davantage les Maliens. Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons aujourd'hui des dialogues intermaliens, d'autant plus qu'ils ont écarté les groupes armés, c'est-à-dire la CMA et ses alliés, et les terroristes du Jinim en Sardine. Donc on peut dire aujourd'hui vraiment c'est davantage de diviser le peuple malien. Donc on ne peut pas parler de dialogue intermalien aujourd'hui parce que c'était une occasion pour les partis politiques de s'exprimer et de donner leur avis. c'est eux qui occupent le débat public. Aucun Malien, aucune autre structure et autre organisation, à part les partis politiques et les organisations politiques, c'est eux qui occupent le débat politique, le débat public au Mali.
Et justement,
donc, si vous les écartez, ça va être justement un problème.
Justement,
avec qui vous allez débattre ?
Vinabé, c'est la raison pour laquelle je souhaitais entendre votre témoignage à l'antenne, parce que vous dites, ce sont les partis politiques qui animent le débat politique au Mali, et vous nous le disiez, ce sont les seuls acteurs qui peuvent vraiment pousser les militaires à aller aux élections. C'est un thème qu'on n'a pas encore abordé dans ce débat et que je souhaiterais qu'on aborde maintenant. Ce sont les élections qui devaient d'abord avoir lieu au mois de février, qui ont été décalées pour des raisons techniques, sans qu'on en connaisse vraiment une nouvelle date. Et puis la fin de la transition qui est survenue à la fin du mois de mars. Beaucoup d'acteurs de premier plan qui dénoncent le vide juridique institutionnel dans lequel le Mali est plongé. Vous nous disiez, Vinabé, les partis, c'était les dernières forces en présence qui pouvaient pousser un peu les militaires à organiser des élections.
Exactement, parce que d'autant plus que les autorités de la transition se sont retirés de la CEDEAO. Or, c'était la CEDEAO qui était et gendarme derrière les autorités à les pousser vers les élections. Et mais s'ils se sont retirés de la CEDEAO, dont la roue est libre, donc les seuls acteurs, les seules personnes qui pouvaient les pousser à aller aux élections, et bien, c'était les partis politiques et les organisations politiques. Donc, sentant cette menace venir, ils ont tout simplement suspendu leur activité. Et quand on suspend leur activité, ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus rien dire. Donc, c'est tout ça qui explique cette suspension. Ce que les gens voient, pensant que c'est juste une menace pour la sécurité, ce n'est pas ça, c'est juste quelque chose qui est venu comme ça par là, pour les maintenir au pouvoir. Et c'est vraiment dommage.
Alors justement, à ce sujet, Rama Sonko nous disait sur Facebook, encore plus explicitement, ce sont des dictateurs africains New Look. Cette suspension des partis, c'est juste une façon de faire taire toutes les voix dissonantes qui leur rappellent que la transition a pris fin. Et on regarde aussi le cas du Sénégal, c'est toujours ce que Rama Sonko nous écrit. Le Sénégal qui montre que l'Afrique n'est pas fâchée avec la démocratie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse et que c'était une manière de faire taire tous ceux qui rappelaient aux militaires que la transition était bel et bien terminée?
Oui, bon, je suis parfaitement d'accord avec lui, avec Rama, parce que quand on regarde aujourd'hui la sous-région, on voit que le Sénégal est un exemple, parce que et Macky Sall pouvait maintenir Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye en prison, mais il ne l'a pas fait, il a respecté ses juges démocratiques. Et c'est ce que les militaires doivent faire. Parce que quand on veut sortir par la grande porte, il faut laisser les gens, il faut laisser ce côté de la démocratie s'exprimer. Parce que quand vous fermez toute voix qui ne parle pas du même, qui parle pas du même sens que vous, alors vous risquez de sortir par la petite porte.
Vinabé, merci beaucoup de nous avoir appelé pour témoigner de votre sentiment. On va maintenant appeler la capitale nigérienne, Niamey, où Abdou Malik nous attend. Bonjour monsieur, et soyez le bienvenu sur l'antenne d'RFI.
Oui, bonjour aux auditeurs de la RFI.
Abdou Malik, vous rappelez que la transition approche de ses 4 ans révolus, et vous nous le disiez, le gouvernement malien, pour assurer sa légitimité, doit montrer qu'il a la volonté d'aller vers des élections. Pour vous aussi, ce serait un point crucial sur lequel il faudrait arriver rapidement, des scrutins.
Bon, écoutez, moi je pense que le mieux dans l'esprit même des droits de l'homme, et on veut que vraiment, malgré que le gouvernement de la transition malienne n'est pas venu de droit au pouvoir, il est venu de fait. Donc je pense qu'après 4 ans, il doit essayer d'écouter les gens, même s'il s'avère que lui, M. Assimi Goïta, puisse se présenter aux élections, qu'il démissionne de l'armée pour déposer sa candidature et parler, dialoguer avec les autres partis politiques et les organisations de la société civile pour une question de l'ordre social. Parce que ça ne sert à rien que le peuple, moi personnellement je suis du Niger et à partir du Niger j'ai soutenu Assimi Goïta. Mais j'aurais voulu que cette décision, qu'il la prenne dès le début. Comme vous prenez pour le cas du Niger, le CNSP depuis que les institutions de la République sont suspendues, donc le gouvernement avait dès la première déclaration informé les Nigériens que à partir d'aujourd'hui les activités des partis politiques sont suspendues. Donc on considère que le peuple nigérien a été préparé psychologiquement à accepter cette décision dès le début de la marche du CNSP. Ah. Mais après 4 ans, l'insécurité est là. Après 4 ans, le chômage des jeunes est là. Après 4 ans, le désœuvrement est là, tout est là, et on leur dit non, maintenant les activités des partis politiques sont suspendues. Je pense que cette décision, Assimi Goïta, s'il avait des bons conseillers, il n'aurait pas dû la prendre. Parce que déjà, on est dans un régime militaire. On est en coup d'État, on considère que déjà les activités des partis politiques sont suspendues. Genre, il n'a même pas besoin de prendre cette décision, parce que ça ne peut lui rendre qu'impopulaire.
C'est le calendrier, donc, vraiment, c'est le calendrier Abdou Malik, c'est le calendrier de cette décision. 4 ans, bientôt après la chute de feu le président Ibeka, c'est le fait que ça vienne après 4 ans qui vous fait poser autant de questions ?
Le fait que ça vienne après 4 ans et aussi le fait que les 4 ans n'ont pas suffi au gouvernement militaire malien de trouver une solution à cette insécurité. Malgré qu'il y a une certaine évolution, c'est vrai. On les voit en train d'acquérir de nouveaux moyens de technologie, de nouveaux appareils, des drones, etc., etc. Mais ce n'est pas ça, au fait, qui peut garantir l'ordre public. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'armes qui peut garantir l'ordre public. L'ordre public, pour l'avoir, il faut écouter le peuple. C'est le même peuple qui est sorti pour te soutenir. C'est le même peuple là que tu devrais écouter. Qu'il soit de la société civile, qu'il soit des partis politiques, qu'il soit... Par exemple, 80 partis politiques, mouvements et organisations des partis politiques, 80, ce n'est pas rien. Même si chaque parti ne compte que 100 personnes. Quand vous faites 100 personnes multipliées par 80 partis politiques, c'est autre chose.
Bien sûr,
donc, même si c'est une minorité en démocratie, il faut écouter le peuple.
C'est ce que nous disaient les auditeurs précédents, le risque de diviser les Maliens, que malgré tout, c'était aussi des formations qui avaient le droit à la parole. Abdou Malik, merci beaucoup de nous avoir appelés et merci de votre fidélité à Niamey. Ishiaka nous appelle de Bamako, on revient dans la capitale malienne. Bonjour Ishiaka, comment allez-vous ?
Bonjour, je vais bien. Bonjour à tous les auteurs de la RFI. Salut Juan Gomez et Jessica Taïeb pour moi.
On les salue bien sûr, qui ont droit aussi de prendre quelques congés bien mérités. Ishiaka, vous, c'est plus le risque de lenteur, j'ai l'impression, qui vous énerve. Vous nous disiez, cette décision, ça risque de bloquer le dialogue. Le Mali doit avancer, on ne peut pas continuer à être coupé du monde. Vous regrettez, vous, cette suspension ?
Oui, moi je regrette ce qui s'est passé. C'était une décision qui m'a beaucoup surpris et pas que moi seul. Après, il faut dire qu'on est quand même dans la 4e année de la transition. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il faut dire que les Maliens sont divisés aujourd'hui. C'est une réalité, il faut le dire. Ensuite, le gouvernement qui appelle à un dialogue intermalien qui vient à quelques jours du début de ce dialogue, qui suspend les activités des partis politiques. Et donc, moi, je me suis dit qu'il y a peut-être une volonté de faire en sorte que ces partis ne participent pas, parce que, vous savez, les premières phases, notamment les phases locales du dialogue intermalien, ont commencé le 13, elles se poursuivent ce 14, ensuite jusqu'au 15. Et il faut dire que plusieurs partis politiques, qui sont les partis les plus implémentés sur le territoire national, ont appelé leurs militants à ne pas prendre part aux activités de ce dialogue. Donc pour moi, ce n'est pas raisonnable de dire aux gens que bon, on va dialoguer, mais après vous suspendez leurs activités. Je pense que ça ne fait pas avancer les choses, ça nous fait reculer. Il faudra que le gouvernement revoie sa copie à temps, parce qu'il y a les phases régionales qui vont commencer à partir du 20. Ensuite, il y a la phase nationale qui va commencer le 6 mai prochain. Je crois que le gouvernement doit revoir cette décision. Elle est non seulement impopulaire, mais elle n'est pas opportune, quoi. Je crois qu'elle n'est pas bien réfléchie. Et elle risque même de faire en sorte que ce dialogue-là soit voué à l'échec. Parce que vous dialoguez avec les forces vives de la nation, des partis politiques qui sont légitimes, qui ont des bases politiques bien solides, implémentées depuis plus de 20 ans. Je ne pense pas que vous puissiez exclure ces partis et prétendre pouvoir trouver un dialogue véritablement franc et inclusif. Et ça ne fait pas avancer, ça ne fait pas sortir le pays de la crise.
Alors que vous estimez justement qu'il aurait été temps. Ishiaka, je vous remercie de nous avoir appelé, de nous avoir fait part de votre témoignage. Je regrette malheureusement qu'on n'ait pas le temps d'entendre le témoignage de Kassoum, qui nous disait au début, quand Abdoulaye Maïga a annoncé cette décision, j'avais pas bien compris. Maintenant, je pense en fait que c'est une bonne décision, ça permettra de maintenir l'ordre et d'avoir un dialogue non biaisé par les intérêts politiques. Désolé Kassoum de n'avoir pas le temps de vous écouter, et à demain.
Transfert via GAB, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Demain, où l'on se retrouve à la même heure pour parler du Soudan et de cette année de guerre écoulée, Dans 10 minutes, vous avez rendez-vous avec Raphaël Constant pour Priorité Santé. Bonjour Raphaël.
Bonjour Gaëtan. Nous, on va parler des blessures de l'enfance, qui est vraiment une période cruciale pour la construction de soi. Avec nos invités, on va vous expliquer comment ces blessures du passé peuvent se manifester des années plus tard et comment on évacue ces traumatismes. On se retrouve dans 10 minutes. Et bien sûr, on attend vos questions, vos témoignages sur la page Facebook de l'émission.
Merci beaucoup Raphaël et à tout de suite.